Même si la persécution n'a pas officiellement commencé, ils vivent dans des situations compliquées où la situation devient compliquée. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, comme des résidents temporaires, et ils vivent au quotidien des tracasseries. Ils ne sont pas très appréciés du voisinage. Et donc Pierre va les encourager tout au long de la lettre. Vous pouvez regarder les prédications ou écouter les prédications sur le site, peut-être. Et au chapitre 5, le dernier chapitre, il est dans le même esprit d'encouragement, et il va laisser, avant de prendre congé d'eux, il va leur laisser trois recommandations pour survivre dans ce contexte hostile, dans ce contexte difficile, un petit peu comme un genre de kit de survie. Vous savez, conseil de Pierre aux dispersés d'Asie mineure, et d'ailleurs, n'oubliez pas votre kit de survie. Vous savez, ce qu'on met dans le sac à dos quand on part en randonnée, les trucs dont on aurait peut-être besoin si ça tourne mal, le couteau suisse, le sifflet pour appeler les secours, la couverture de survie, le kit de survie. Et Pierre nous donne d'autres éléments à mettre dans le sac à dos des résidents temporaires que nous sommes, si on veut survivre dans cet environnement difficile. Hein. Un kit de survie qui pourrait nous être utile en ce printemps 2022. Mais nous allons lire le texte d'abord. « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Alors le premier élément de ce kit de survie pourrait peut-être être comparé à une corde. Il s'agit de la confiance qui apparaît au verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Il faut de la confiance pour se décharger sur lui de tous ses soucis. Et on remarque, et il est intéressant de remarquer, que le mot « souci » dans l'original, en grec, vient d'un verbe dont la racine veut dire « diviser », « séparer ». Et donc l'étymologie nous est utile pour rappeler que si on ne prend pas garde, les soucis peuvent nous séparer de Dieu. Dans la parabole des terrains, ou la parabole du semeur, le troisième terrain, la petite graine commence à pousser, mais elle est étouffée par les mauvaises herbes qui sont en fait, et Jésus va interpréter cette parabole, qui sont en fait les soucis du monde. Les soucis de notre vie et du monde ont un pouvoir asphyxiant, étouffant, absolument phénoménal, et on en fait l'expérience tous les jours. On est bien dans une question de survie. Dans le kit de survie, il y a la confiance. Et il faut remarquer donc que le verset 7 qui parle de confiance est tout à fait lié au verset 6 qui nous parle, lui, d'humilité. Et on pourrait lire comme ceci: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu en vous déchargeant, c'est le participe présent qui est lié au verbe principal, en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. Là, se décharger sur Dieu de tous ses soucis serait une expression ou une marque de notre humilité. En effet, faire confiance, c'est reconnaître humblement nos limites personnelles. C'est reconnaître que l'on a besoin de Dieu dans notre vie. Oui, se décharger sur lui de tous nos soucis est un geste d'humilité, parce que je lâche prise par rapport à mes soucis, où j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Non, je lâche le contrôle de ma vie, humblement. Et on peut se demander si, quand on est inquiet, si l'anxiété ou l'inquiétude ne révélerait pas des traces d'orgueil dans notre vie, Des orgueilleux qui ne veulent pas faire confiance en Dieu pour leurs propres affaires, qui ne veulent pas lâcher les rênes de leur vie. Cet orgueil ou ces traces d'orgueil où l'on refuse de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Alors je ne dis pas que tous les anxieux sont des orgueilleux. Il y a toutes sortes d'anxiétés, mais l'idée me semble intéressante malgré tout, cette idée de confiance et d'humilité qui sont liées. Et il y a un appel à tous les anxieux, à tous les inquiets du monde, à laisser tomber sa fierté mal placée, à vouloir tout gérer soi-même, un appel à se décharger sur Dieu, comme dit le texte dans l'original, à se débarrasser de tous ses soucis sur Dieu. J'avais une petite image qui n'a rien à voir, mais le mélange de l'orgueil et de l'humilité, c'est le chat, le plus grand philosophe belge, qui dit « Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. » Alors, tout cela n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas cette promesse de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce soin de Dieu pour les hommes, pour chaque homme, c'est un trait distinctif de la foi chrétienne. Dans toutes sortes de religions et de cultes, tous les efforts des adeptes sont faits pour éveiller l'intérêt de la divinité, par des prières, par des sacrifices, par des cérémonies en tout genre. Et le résultat est incertain. Qui sait si cette divinité un petit peu capricieuse va s'intéresser à moi? Mais dans la foi chrétienne, le soin de Dieu est là. Il fait partie de la personnalité de Dieu. Le Dieu de la Bible, révélé en Jésus-Christ, prend soin de la personne humaine, prend soin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Et notre vie peut se baser sur cette confiance que Dieu prends soin de moi. La question qui se pose est de savoir si cette vérité de la foi, que Dieu prend soin de moi, résiste à la réalité de la vie. Est-ce que Dieu prend soin de moi quand le médecin annonce un cancer? Est-ce que Dieu prend soin de moi quand un être proche disparaît trop tôt? Est-ce que Dieu prend soin de moi quand je cherche un travail depuis 2 ans sans succès? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions, mais je risque humblement une idée, en quelques mots, 3 petits mots, à ajouter après Dieu prend soin de moi, oui, il prend soin de moi à la fin, finalement. Dans les 2 sens du terme, finalement, ou rétrospectivement, quand on tourne la tête, quand on revient sur les événements qui ont été difficiles, on peut dire oui, finalement. Quand je regarde de plus près, quand je me retourne sur ces événements qui ont été difficiles dans ma vie, sur cette période de vie difficile, Dieu a pris soin de moi. Même sans que je m'en aperçoive sur le moment, mais in fine, oui, je peux le dire, Dieu a pris soin de moi. Et c'est le témoignage de nombreuses personnes ici qui sont passées par des moments terribles. Mais finalement, peut vouloir dire aussi à la fin des temps, de mon temps ici-bas, Dieu prendra soin de moi à la fin. Et là, on pointe vers l'espérance chrétienne, la résurrection finale dont Jacques Buchholz nous a parlé il y a 15 jours, ici même, sur terre, au ciel d'abord, sur terre ensuite. Et là, il prendra soin de moi, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, une prise en soin totale, oui, in fine. Finalement, dans tous les sens de l'expression, Dieu prend soin de moi et je peux lui faire confiance. On ne va pas parler de David. On passe au point 2, le deuxième élément du kit de survie pourrait être comparé à des jumelles. Il s'agit de la vigilance. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors on a l'impression que Pierre se répète un peu, c'est la troisième fois dans l'épître qui parle de sobriété, d'équilibre et qui parle aussi de vigilance. Mais cette fois, la menace est précisée, même personnalisée, il s'agit de l'adversaire. Le diable, qui ressemble à un lion rugissant, cherchant qui dévorer et ce qui lui tombe sous la dent. Alors on a l'impression que Pierre sait de quoi il parle. Voilà cette image, vous reconnaîtrez les, vous verrez les crocs du lion et de la personne qui cherche à dévorer. On a l'impression que Pierre sait de quoi il parle, même si pour lui le lion ressemble plutôt à un coq qui chante trois fois quand il renie le maître. Mais l'adversaire a tourné autour de Pierre. Et Jésus va dire à Pierre, d'ailleurs, avant cet événement, « Je prie pour toi, Pierre, parce que l'adversaire Satan te passe au crible. » Et il est là. Et Pierre sait de quoi il parle quand il parle de l'adversaire et il en appelle à la vigilance contre une certaine naïveté humaine qui consiste à dire que tout baigne, que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, qu'il n'y a pas de mal, circuler, il n'y a rien à voir, surtout pas le diable. Il y a Goethe qui disait « Les gens ignorent la présence du mal, du diable, même quand il les a saisis à la gorge. » À mon avis, Goethe a lu 1 Pierre 5,8 et Goethe a bien senti le problème avec le diable, celui du refus de reconnaître sa présence ou du déni, et cela malgré l'évidence. Et la vigilance commence à reconnaître la présence de cette personne spirituelle qui s'active autour de nous et qui cherche à nous détruire. Alors il ne s'agit pas de le voir partout, le diable, de tout diaboliser non plus et de vouloir tout exorciser à coups de crucifix. Il ne s'agit pas de cela, mais simplement de prendre conscience de son action, non pas dans les nuages, dans des sortes de combats spirituels comme dans les romans de science-fiction chrétienne, enfin entre guillemets chrétienne, mais prendre son action, prendre en compte son action dans ma vie. La personne qui cherche à dévorer, c'est bien moi. Dans ma relation avec Dieu, le diable est dévoreur de vie chrétienne, de relation avec Dieu, un dévoreur de foi. Et un retour au contexte de cet appel à la vigilance est très intéressant. Nous sommes, donc je l'ai déjà dit, pour les chrétiens de l'époque, dans un contexte de persécution. Il ne s'agit pas de persécution violente, mais d'une persécution latente sous forme de moquerie, de mise à l'écart, de dénonciation, de carrière bloquée, une souffrance au quotidien, un peu lancinante, qui fatigue à la longue. Et Pierre appelle ses chrétiens à rester vigilants parce que l'adversaire utilise cette souffrance au quotidien pour les amener à renier leur foi chrétienne, à faire marche arrière. On parle d'apostasie ou de retour en arrière. Le risque est grand, dans un contexte de souffrance, de renier sa foi. Parce que c'est trop dur, parce que le doute s'installe, parce qu'il est difficile de faire partie de la minorité, parce que ce monde est laïque et que si on veut réussir dans la vie, il vaut mieux ne pas faire de vagues. Et quand on est chrétien dans la barque avec Jésus, on fait des vagues. Je mélange les deux époques, mais je le fais exprès. Dans le monde d'alors comme celui d'aujourd'hui, on est en mode survie de la foi. Et le diable cherche à dévorer ma vie de foi, la tienne aussi, et il le fait par le biais de choses qui pourraient paraître inattendues, comme celui de la souffrance qui peut nous rapprocher de Dieu, mais qui peut aussi nous éloigner de Dieu si on n'est pas vigilant. L'adversaire est un fin tacticien, il utilisera nos faiblesses, mais aussi parfois nos forces, pour nous amener à abandonner la partie. Quand on est chrétien depuis quelques années, on a vu et on voit autour de soi des amis se faire dévorer par ce lion rugissant, des amis qui ont abandonné la foi officiellement ou officieusement, nettement ou progressivement. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils cédé? Pourquoi sommes-nous restés? Personne ne le sait. Il n'y a pas de réponse facile. En tout cas, on n'est pas meilleur que les autres, ni à l'abri. Mais en voyant tout cela, on doit mettre dans notre sac de randonneur une paire de jumelles pour la vigilance. Que chacun de nous puissions dire, comme Paul dans 2 Corinthiens 2,11, en parlant du diable, « Nous n'ignorons pas ses desseins et ses intentions. » On sait ce qu'il cherche à faire, et en le sachant, on va prendre ses précautions. Et une des meilleures précautions, c'est la prière. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus veillait, dit « Mets ensemble les deux mots, vigilance et prière. » Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. La prière, comme un moyen de rester vigilant, c'est une question de survie de notre foi. Le troisième élément à mettre dans le sac à dos du randonneur pour le kit de survie, c'est la résistance. On pourrait la comparer à la couverture de survie. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. La résistance va de pair avec la vigilance. Elle relève de la même attitude à l'égard de l'adversaire. Mais après avoir repéré l'ennemi, il faut, dans un deuxième temps, lui résister en face, faire bloc contre lui, ne lui donner aucun accès, aucune prise. Il s'agit de ne pas collaborer avec le diable, mais d'entrer en résistance, prendre le maquis, comme Dietrich Bonhoeffer en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, à résister et à inviter l'Église à résister au nazisme, comme le général de Gaulle et son appel de 18 juin, comme Winston Churchill, « We will never surrender », nous nous rendrons jamais. La Bible nous appelle à la résistance. Et à travers l'histoire de l'Église, des chrétiens protestants l'ont bien reçu et l'ont vécu dans leur corps. Marie Durand, enfermée pendant 38 ans dans la prison, dans la tour de Constance à Sainte-Marie-de-la-Mer, prisonnière de Louis XV à cause de sa foi protestante qu'on essaye de lui faire abjurer. Elle écrivait avec ses ongles sur le mur de sa cellule un seul mot, un seul verbe, mais ô combien important, résister. Il nous faut résister. La vie chrétienne est faite de résistance. Et Pierre, dans son appel, nous montre bien le lieu de la résistance. Il s'agit de la foi. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. La foi comme zone de résistance. La foi, ici, est bien celle de l'attachement au Seigneur. Il s'agit de résister au diable, non pas en devenant spécialiste de diabologie ou en combat spirituel, mais en restant fermement attaché au Seigneur. Résistez-lui en maintenant une vie qui serait résolument orientée vers Dieu, non pas comme une girouette qui prend le vent, mais comme une boussole toujours orientée vers le pôle magnétique. C'est tellement vrai que les vents contraires, les difficultés de la vie, les circonstances, les souffrances, le travail trop lourd, les soucis trop nombreux, les problèmes à répétition, les problèmes de famille, les problèmes conjugaux, les problèmes sentimentaux, les problèmes de la solitude pesante, les échecs répétés, les tentations trop fréquentes peuvent nous éloigner de Dieu et peuvent parfois nous amener à abandonner la course. Mais si par la foi, nous restons orientés vers lui, si par la foi, nous considérons toutes ces circonstances comme faisant partie de son éducation pour nous, si par la foi, nous opposons au diable les promesses de Dieu à notre égard, la vérité de son amour et de sa fidélité éternelle, alors nous pourrons résister au rugissement du lion qui rôde autour de nos échecs et de nos faiblesses et de nos soucis. Avec la foi, on entre en résistance, non pas dans une sorte de passivité stoïque où l'on se recroquevillerait dans sa coquille spirituelle, mais dans un acte conscient et volontaire où l'on place le Seigneur en plein centre du combat, en plein milieu du combat. Seigneur, tu es là. J'ai connu un jeune Congolais qui s'appelait Valentin. C'était à Bruxelles, c'était un bel homme, jeune encore, ancien sportif, joueur de volley, 1m90. Mais à l'université de Lubumbashi, en mai 1990, les hommes de Mobutu ont tiré dans la foule d'étudiants. Et Valentin a reçu une balle dans la moelle épinière. Il est tétraplégique. Et il habite à Bruxelles dans un appartement médicalisé. Et quand je lui rends visite au milieu des années 90, alors que j'étais un jeune pasteur, il me disait toujours « Dieu est grand, Eric. Dieu est grand. » Et j'étais tellement encouragé quand j'entendais Valentin, peut-être plus encouragé que lui par ma visite. Et je sentais que Valentin tenait ferme dans sa foi, que Valentin résistait avec sa foi aux attaques de l'ennemi qui le poussait à l'abandon et au désespoir. Mais Valentin savait par la foi que sa vie était entre les bonnes mains de Dieu. Il n'était pas dans le déni. Il ne disait pas « il n'y a pas de mal ». Mobutu et ses sbires étaient coupables de crimes contre l'humanité et les Belges avaient laissé faire. Il ne s'agit pas d'innocenter tout le monde, mais la foi en ce Dieu puissant lui permettait de résister dans son être intérieur pour ne pas sombrer dans l'amertume, la résignation ou le reniement. « Dieu est grand », disait Valentin. Valentin était en mode survie, non, il était en mode vie. Il était un résistant par la foi. Alors nous ne sommes pas dans la situation de Valentin, ni exactement dans la situation des destinataires de la lettre de Pierre, mais nous aurons peut-être des chemins difficiles. Peut-être que nous serons dans notre vie de temps en temps en mode survie, d'une manière ou d'une autre. Alors je vous propose de penser à ce kit de survie que Pierre nous propose à la fin de sa lettre. La confiance que Dieu prend soin de nous et qui nous appelle à nous décharger sur lui de tous nos soucis. La vigilance par rapport à l'adversaire qui utilise tous les moyens pour nous étouffer, pour étouffer la foi. Et puis la résistance dans la foi. Je termine par la salutation qui vaut le détour. Voilà. Quand il parle de la grâce au verset 10, le Dieu de toute grâce. Et ce détour par la grâce est essentiel alors que nous pensons peut-être que tout ce qui vient d'être dit est un peu compliqué, est un peu lourd dans le sac à dos, demande beaucoup d'efforts de la part de la personne. Après tout, je ne suis ni Marie Durand ni Valentin. Je suis juste moi et j'ai l'impression de ne pas suffire. Mais notre Dieu est celui de toute grâce, de tout don que je ne mérite pas, de tout don qui ne dépend pas de moi. Dieu nous fera la grâce non seulement de survivre, Dieu nous fera la grâce de développer dans notre vie cette confiance, cette vigilance, cette résistance dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais pour vivre tout simplement. Et si on revient au dernier verset, on s'aperçoit que Dieu, l'auteur de toute grâce, nous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et si ce kit de survie, c'était tout simplement Dieu lui-même, Dieu dans notre vie. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.